Amen. Que Dieu soit béni pour ces moments que nous passons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vraiment, au plus profond de votre être, il y a quelque chose que vous réclamez? Seigneur, je voudrais le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça peut produire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans les prochaines réunions. Nous avons commencé ce matin, mais nous allons voir, premièrement, en introduction, dans Ésaïe 48, un soupir du Seigneur, qui est en même temps une promesse. Le Seigneur sait que l'homme, il a du mal à se concentrer, du mal à obéir, du mal à réfléchir. Ésaïe 48, regardez quand les 12 espions sont revenus. Vous rappelez quand les 12 espions sont revenus, franchement, à cause d'une réaction de quelques-uns, ils ont influencé tout le monde et ils sont tous restés dans le désert parce qu'ils n'ont pas été attentifs. Ésaïe 48, verset 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, je répète, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Amen. Dans le psaume 46, un petit peu avant, dans le psaume 46, il nous est parlé de ce à quoi ressemble la présence de Dieu. Ouais. Psaume 46, verset 5. Nous l'avons chanté ce matin en introduction ou en conclusion du culte, ce très très vieux cantique qui nous rappelle que la présence de Dieu est comparée à un fleuve. Si vous avez regardé l'Apocalypse, la Genèse, ça commence par un fleuve. Vous avez remarqué, il y avait un fleuve dans le Jardin d'Éden. Et si vous avez lu l'Apocalypse, ça se termine avec un fleuve également dans le paradis de Dieu. Voilà, la présence de Dieu est comparée à un fleuve. Psaume 46, verset 5, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. » Elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Et après le verset clé pour cette introduction à la vie de l'Esprit dans Jean au chapitre 7, il y a la condition. La condition pour que ces fleuves se manifestent au travers des croyants qui sont devenus, par la repentance et par la conversion, le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous le réalisez que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Est-ce que vous en êtes conscient? Vous êtes un temple. Hein? Ça fait que la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on réalise le dimanche après-midi ou le dimanche matin. C'est quelque chose de continuel. Il est continuellement avec nous, le jour, la nuit, continuellement. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus, Jean chapitre 7, verset 37, à la fin de la fête des tabernacles, dira ceci. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. » Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Si tu étais attentif à mes commandements, comment interprétez-vous les commandements quand vous lisez la parole? Vous avez remarqué que quand vous lisez la parole de Dieu, il y a des promesses. Vous aimez les promesses? Oui? Vous faites attention aux promesses? Vous êtes attentif aux promesses? Bon. Dans la parole de Dieu, il y a des prophéties. Elles sont extraordinaires, ces prophéties. Elles nous permettent de ne pas paniquer par rapport à tout ce que le monde est en train de vivre. Ce matin, une sœur, cette semaine, une sœur a fait deux fois le même rêve par rapport à un texte d'Ésaïe. Elle ne comprenait pas. Et quand elle m'a dit le texte, j'ai dit, mais c'est un texte qui parle de la colère de Dieu. Et je suis persuadé que Dieu a révélé à cette sœur que la colère de Dieu vient sur la terre. Est-ce que je vous apprends quelque chose? Non. Mais Dieu peut nous parler par une prophétie. Dieu peut nous parler par des promesses. Dieu peut nous parler par des préceptes. Mais il y a des commandements. Et les commandements, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller. Oh, si tu étais attentif. Alors, il y a des commandements. Soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette parole? Qu'est-ce que c'est pour vous? Vous pouvez me répondre, c'est-à-dire c'est une question. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous? Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est une parole de l'apôtre Paul quand il écrit aux Éphésiens. Tiens, il a dit, là, je vais mettre ça en plus. Est-ce que c'est un commandement? Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ce que nous croyons, c'est que Dieu veut que nous vivions dans la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Pour cela, il faut connaître Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible nous demande de le connaître à lui. On va lire notre texte qui indique bien que la divine puissance que Dieu met à notre disposition, ses promesses, elle se présente par le fait de connaître Jésus. Dans 2 Pierre au chapitre 1er, c'est des textes que vous pouvez noter et puis après méditer les uns à côté des autres pour votre culte personnel. Vous aimez faire votre culte personnel? Oui? Est-ce que c'est important pour vous le culte personnel? Alors voyez, dans 2 Pierre au chapitre 1er, il vous faudra lire du verset, on ne va pas tout lire, du verset 1 au verset 14. Et vous pouvez méditer ce texte. Ce sont des textes extrêmement riches qui nous indiquent comment la grâce, les promesses, la puissance peuvent nous être communiquées. Regardez le verset 2. « Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Comment ? Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Dites-moi, est-ce que tous les chrétiens vivent dans la grâce et dans la paix ? Non. Les chrétiens qui sont tout le temps agités. Pourquoi ? Ils prient, ils vont à l'église, ils chantent, ils sont presque sérieux, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas. Et vous voyez, la grâce et la paix nous est donnée par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Regardez le verset qui suit. Ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Verset 3. Sa divine puissance, vous y êtes? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Comment? Au moyen, une fois de plus, de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Voyez la grâce et la paix. Les promesses par celui, donc par Jésus. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Et si vous lisez le verset 8, une fois de plus, vous verrez qu'il faut s'appliquer à faire tout un tas de choses, car si ces choses sont en vous et y sont abondantes, en avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles. Pourquoi ? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous prenez le temps de méditer cette épître, vous verrez que tout tourne autour de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Oui, les commandements de Dieu sont merveilleux. Les commandements de Dieu, pour vous, sont-ils des contraintes, des obligations, ou sont-ils des grâces et des bénédictions? Parce que, écoutez, en tant que pasteur, quand je vois comment certains chrétiens réagissent par rapport aux commandements du Seigneur, je suis convaincu, parce que je le vois, qu'ils considèrent les commandements comme une corvée. Prier, ouais, fatigant. Moi, je trouve que c'est plutôt fatigant de ne pas prier et de ne pas avoir cette communion avec Dieu. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, prenez. Quelqu'un peut me dire la suite ? Et après ? Non, et recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, de deux choses l'une, ou servir Dieu, c'est pénible, ou servir Dieu, c'est épanouissant. C'est l'un ou l'autre. Comment vivez-vous votre vie avec Dieu ? La vivez-vous comme quelque chose de pénible ? C'est la preuve que vous faites ce que vous avez envie de faire, même pour Dieu. Mais vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Vous savez, j'ai réagi un jour quand dans une pastorale, j'ai entendu un pasteur qui a cru bien faire et qui a dit « Oh, j'ai tellement de choses à faire que je languis la retraite pour pouvoir exercer mon ministère. » Mais moi, ça m'a fait bondir. Et je me suis dit « Mais ça ne tient pas debout. » Et j'ai pris la parole, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous diriez d'un boulanger qui dirait vivement que je sois à la retraite pour pouvoir faire du pain? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement ça. C'était une ânerie, une stupidité, ce qui est la preuve que cet homme ne faisait pas ce que Dieu lui demandait. Parce que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on a le temps de le faire. Oui ou non? Donc le joug est doux et le fardeau léger. Et c'est le diable qui veut nous faire croire que servir Dieu, c'est fatigant, que c'est bien de servir Dieu, mais il faut garder une certaine partie de son temps pour soi, pour faire ce que l'on veut, afin quand même qu'on arrive à trouver du plaisir quelque part. Je crois qu'on doit avoir du temps pour tout. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'embrasser, pour s'éloigner des embrassements. C'est écrit tout ça? Oui. Il y a un temps pour s'amuser avec ses petits-enfants. Est-ce qu'on a le droit de s'amuser avec ses petits-enfants si on en a? Oui. Moi, je vous dis que oui. Hein? Il y a un temps pour tout. Et c'est une bénédiction d'arriver à faire tout ce que Dieu nous demande. Mais il faut que nous comprenions que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est-à-dire la confiance que nous n'avons pas cessé de chanter pendant tous ces cantiques. Alors, mes frères et sœurs, nous voulons véritablement que le feu de Dieu embrase nos cœurs. Alors, il y a un travail, ça démarre par une soif, il y a tout un processus qui commence par une direction de Dieu. Nous avons vu ce matin, nous allons le voir, comment le Seigneur a conduit le prophète Ézéchiel de la terre ferme, c'est-à-dire d'une vie desséchée, à un grand fleuve d'eau vive dans lequel il a pu être porté, ce qui représente la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vraiment nous voulons être remplis du Saint-Esprit? Parce que Dieu le voit, ça. Pourquoi voulons-nous être remplis du Saint-Esprit? Tiens donc. Pourquoi voudriez-vous être remplis du Saint-Esprit? Pour pouvoir dire aux autres, tu sais, moi, je suis remplis. Vous comprenez bien que ça part mal de suite, là. Hein? Moi, j'exerce les dons spirituels. Et toi? Si c'est pour ça que nous voulons être remplis du Saint-Esprit, il vaudrait mieux ne pas l'être du tout, parce que ça ne tiendra pas longtemps d'ailleurs. Je crois que nous voulons être remplis du Saint-Esprit, premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu. Deuxièmement, parce que c'est le seul moyen que Dieu a pour que son œuvre puisse vraiment se faire. Et troisièmement, ça glorifie son nom. Et des âmes peuvent être sauvées. Car je crois que l'œuvre de Dieu ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit. N'est-il pas écrit, ni par la force, ni par la puissance de l'homme, bien sûr, la puissance humaine, intelligente, intellectuelle, tout ce que vous voudrez, mais par le Saint-Esprit. Et nous voulons voir dans nos vies, autour de nous, dans nos familles, là où nous travaillons, là où le Seigneur nous conduit, véritablement, cette vie de l'Esprit. Je me souviens, le gars qui m'a amené au Seigneur, alors que j'étais rebelle, vraiment rebelle, et moqueur par rapport aux choses spirituelles. Une fois que j'ai vu ce frère, il y a quelques années, parce qu'il avait amené je ne sais pas combien d'âmes à Dieu. Et je lui ai dit, tu sais, je me souviens de toi quand tu m'as parlé de Jésus. Souvent, quand Dieu m'utilise dans l'église ou ailleurs, je pense souvent à toi, moi qui me suis moqué de toi. Ah, il me dit, c'est vrai, c'est l'époque où j'étais rempli du Saint-Esprit. Il vivait quelque chose. Cet homme était vraiment en communion avec Dieu. À peine il a parlé avec moi 5 minutes que j'étais convaincu de péché, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Lui, il m'a parlé de Jésus, comme on peut parler le plus simplement possible, mais le Saint-Esprit m'avait convaincu de péché. Et cet homme, je ne sais pas combien, d'un court laps de temps, il a amené des âmes à Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Quand il parlait, il se passait quelque chose dans l'esprit, je le sais, des gens qu'il côtoyait. Est-ce que ce n'est pas ça que Dieu veut? Que lorsque nous sommes remplis de son esprit, l'esprit des hommes et des femmes en face de nous est vraiment touché par sa puissance. Et ça, ça doit être d'abord compris comme une véritable bénédiction. C'est pour ça que j'ai dit oui, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre confiance. Il faut comprendre que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre. Moi, je sais qu'il y a des églises, il y a des réunions d'attente. Qu'est-ce que vous diriez si on faisait des réunions d'attente pour le salut? Est-ce que ça aurait un sens? Mais non. Le salut, c'est un don. Oui ou non? Salut, c'est un don, c'est-à-dire que vous entendez la prédication de la croix, vous êtes convaincu de péché, vous vous repentez ou vous ne vous repentez pas, mais une chose est certaine, c'est un don. Vous recevez le salut. C'est un don. Est-ce que c'est un don? Est-ce que le baptême du Saint-Esprit est un don? Est-ce que c'est écrit? On va le lire, parce que je vois déjà quelques regards inquiets. Acte. C'est important. Beaucoup de croyants sont bloqués avec le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ont le sentiment que c'est quelque chose qu'ils doivent gagner. Je dois faire des progrès, je dois faire des efforts, je dois attendre des jours et des heures, je dois jeûner, je dois prier. Vous ne voyez pas ça dans la Bible. À part la première fois où le Saint-Esprit a été répandu, c'est vrai qu'ils ont dû attendre à Jérusalem. Mais après, il n'y a jamais de réunion d'attente, c'est vraiment un don. Acte chapitre 1er. C'est important de le comprendre. J'ai prié pour que le Seigneur me dirige dans ces études que nous allons faire, plusieurs réunions de suite, mais une chose est certaine, hein, c'est un don. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Un petit peu plus loin, lorsque ils vont se repentir, acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres hommes, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Regardez encore dans Luc, au chapitre 11. Dans Luc, au chapitre 11, il y a cette vérité par rapport à la vie de l'Esprit. C'est un enseignement sur la prière. Le Seigneur nous demande de persévérer. Et regardez ce qu'il dit au verset 13. Luc 11, verset 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. Il faut le prendre, il faut le recevoir. Il n'y a pas besoin d'attendre des heures. Le salut, il faut faire un acte de foi. Et là, c'est exactement pareil. Il faut faire un acte de foi. Mes frères et sœurs, vous savez, nous avons un Dieu puissant, mais nous avons aussi un ennemi qui a énormément d'expérience et qui sait comment nous maintenir dans la défaite. Combien de chrétiens, je le sais, me le disent, on n'arrive pas à prendre certaines victoires. Moi, je crois que le baptême du Saint-Esprit règle énormément de problèmes. Vous l'avez déjà vécu? Avez-vous vécu des moments où vous avez été porté par la grâce de Dieu? Des moments où dans la communion avec Dieu, vous avez fait certaines expériences? Vous n'avez jamais vu un ivrogne être délivré par la puissance du Saint-Esprit? Quelqu'un qui vous dit, voilà, j'ai entendu la parole, j'ai lu la parole, j'ai crié à Dieu et il m'a délivré de l'alcoolisme. On n'a jamais entendu ça? Mais il peut pas s'il le fait pour l'alcool, il ne peut pas le faire pour tout le reste? Il ne peut pas le faire maintenant, alors que nous sommes sous son regard? Oui, oui, c'est un don. Jésus a dit à une femme un jour, si tu connaissais le don de Dieu. Et nous devrions nous dire, mais Seigneur, je veux découvrir ce don, je veux faire cette expérience, je veux connaître cette soif qui va me pousser dans ta présence. Si quelqu'un a soif, pourquoi êtes-vous venu cet après-midi dans ce lieu de culte? Il n'y a que vous qui pouvez répondre. Pourquoi êtes-vous venu? Vous ne saviez pas quoi faire? Pourquoi êtes-vous venu? Vous pouvez répondre. On serait étonné peut-être. Qu'est-ce que vous écririez sur un papier? Pourquoi êtes-vous venu? Pour se rapprocher de Dieu. Oui. C'est vrai qu'au contact de la parole de Dieu, au contact de chrétiens, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement, on se rapproche de Dieu. C'est bien. Qu'est-ce que vous mettriez dessus? Oui, c'est vrai. On vient, on invoque la grâce de Dieu, et si on est dépêché, on peut se décharger de toutes ces choses. Oui, être relevé. Moi, je le crois que dans un moment comme ça, Dieu nous relève. Éclairé. Seigneur, éclaire-moi. Est-ce que des hommes de Dieu l'ont fait? Est-ce que David l'a fait? Éclaire-moi. Est-ce que c'est important de dire, Seigneur, éclaire-moi. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin... Vous voyez, je pense qu'on prendrait plusieurs témoignages, et tout ça, ça se recoupe. On est venu pour adorer aussi. J'espère que quelqu'un aurait dit, moi, je suis venu adorer le Seigneur. Toute la semaine, je le prie. Toute la semaine, il me garde. Toute la semaine, il pourvoit. Au moins, je vais aller dans sa maison pour l'adorer. Il y en a qui auraient écrit pour l'adorer? Bon, ça me va. Et c'est important. voyez, ça c'est important, parce que le service dans la Bible doit être précédé de l'adoration. La vie de l'esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je me soupçonne l'ennemi, en faisant cette étude, qu'il veut vraiment nous empêcher de comprendre cet éclairage, comme cette sœur vient de le dire, cet éclairage sur la vie de l'esprit. Pourquoi ? Parce que l'œuvre de Dieu ne peut se faire qu'avec des croyants qui sont remplis du Saint-Esprit. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que des païens peuvent distribuer des prospectus pour Dieu ? Est-ce qu'un païen pourrait prêcher l'évangile ? Moi, je pense. On le forme pendant 2 ou 3 mois, et je crois qu'on pourrait faire prêcher l'évangile à un païen. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Non, ce ne sera pas efficace, mais il peut le faire. Vous avez raison. Mais on peut, je pense, on pourrait former des incrédules à la prédication. Vous me suivez ? Attention, c'est pas ce qu'on va faire, c'est une image. Tout ça pour vous dire qu'on pourrait essayer de faire l'œuvre de Dieu sans la vie de l'Esprit. Et on peut même faire de l'évangélisation sans la bénédiction du Saint-Esprit. D'ailleurs, l'évangélisation, comme je le disais ce matin, ça je l'ai lu dans un livre, ce sont les hommes qui travaillent pour Dieu. Mais le réveil, par la puissance du Saint-Esprit, c'est Dieu qui travaille pour les hommes. Et c'est là toute la différence. Ou alors nous nous épuisons et nous travaillons et nous nous fatiguons à servir Dieu. J'en ai assez, je suis fatigué de servir Dieu, je suis épuisé. C'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Jésus le dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Et servir Dieu doit être un facteur d'épanouissement, de grâce, de bénédiction, même bien sûr s'il y a la fatigue. Il y a la fatigue du jour, ce soir peut-être à 10h30, vous serez fatigué. Non, ça peut arriver d'être fatigué. Mais il y a une direction de Dieu, des étapes dans lesquelles Dieu veut que nous avancions. Alors c'est vrai qu'il y a les 3 points, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, à Jésus, et qu'il boive, parce que ce n'est pas parce qu'on va dans une église qu'on vient à Jésus. Quelqu'un qui veut être éclairé, quelqu'un qui veut servir Dieu, il n'y a que Dieu qui le voit dans quel état d'esprit vous êtes venu. Même moi, il n'y a que Dieu qui sait pour comment je prêche cet après-midi. Est-ce que je prêche parce que c'est mon travail ? Ou est-ce que je prêche parce que je veux que l'œuvre de Dieu avance ? Vous voyez, il n'y a que Dieu qui le sait. Est-ce que je prêche pour avoir un salaire ? Parce que j'ai un salaire ? Il n'y a que Dieu qui le sait. Qu'est-ce que vous diriez, vous ? Hein ? Alors, il y a 4 étapes par lesquelles Dieu veut que nous passions. Dans Ézéchiel, au chapitre 47, il y a un merveilleux chapitre. On l'a partagé ce matin. C'est un chapitre où Dieu veut faire une expérience à un homme qui est attaché à Dieu. Il doit faire cette expérience. Elle est là dans la Bible parce que nous aussi, nous pouvons faire cette expérience de passer de la sécheresse au torrent de la vie avec Dieu. Ézéchiel 47. Vous avez déjà lu Ézéchiel ? Oui, c'est un livre difficile quand même, hein, vous ne trouvez pas ? Mais c'est un livre qui nous parle justement comment la gloire s'est retirée du temple et comment la gloire est revenue en Israël. C'est un livre très intéressant. Et quand vous voyez ce qui s'est passé dans le temple, ce n'est pas étonnant que Dieu l'ait détruit, vous savez, en 70, à cause de tout ce qui s'y est passé. Et ce n'était pas du tout sa volonté, croyez-moi. Et la gloire s'est retirée d'Israël parce qu'ils ont introduit dans le temple des abominations, des idoles et tout un tas de choses qui n'avaient aucune raison d'être. Et c'est ce qui se passe lorsque dans la vie des chrétiens, il y a des idoles dedans. Alors regardez cette expérience, ce qu'Ézéchiel va faire. Ézéchiel 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, ça correspond à peu près à 500 mètres. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu ? fils de l'homme. Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Amen. Et vous avez vu ce qui se passe? Quand il revient de cette expérience, qu'est-ce qu'il voit? Quelque chose qu'il n'y avait pas avant, des arbres. Il voit du résultat plein de fruits, plein de feuilles qui sont là autour, qui indiquent que la bénédiction de Dieu s'est produite pendant qu'il se trouvait dans le fleuve. Ça ne vous encourage pas? Et cet homme a eu besoin de faire cette expérience. Si lui en a eu besoin, nous en avons besoin. Et il faut en avoir soif. On peut se contenter de la sécheresse. Les Hébreux sont restés 40 ans dans le désert. Dieu les a gardés. Est-ce que Dieu les a gardés dans le désert? Ben oui. Est-ce que Dieu les a protégés? Est-ce que Dieu a permis que leurs sandales s'usent? Est-ce qu'ils ont eu à manger tous les jours? Oui. Dieu les a gardés. C'était le peuple de Dieu. Ils ne sont pas rentrés dans les promesses à cause de leur désobéissance, à cause de leur incrédulité. Mais malgré le fait qu'ils sont passés à côté des promesses de Dieu, c'était quand même le peuple de Dieu. Oui ou non? Oui, c'était quand même le peuple de Dieu. Le rocher qui les suivait, c'était qui? C'était Christ. C'est écrit dans la parole. Mais ils sont restés dans le désert. Et peut-être que l'Église, en général, peut se contenter de ce compromis. On est sauvé, c'est bien. Les gens sont perdus. Ce soir, avant minuit, des milliers de gens seront partis dans l'éternité, en enfer. Nous, si on vient mourir, où on va? Au ciel. Bon. On peut se contenter, on est quand même béni. Même si on est dans le désert, on est béni. Mais voilà, l'œuvre de Dieu ne se fait pas. On peut essayer de la faire avec des méthodes, en utilisant des choses. On peut faire des missions d'évangélisation. Mais vous savez, si Dieu n'est pas d'accord avec nous, s'il y a du péché dans l'Église, on va s'épuiser, on va tranquilliser sa conscience, parce que ça tranquillise quand même. On a fait une mission, les gens sont venus, ou les gens ne sont pas venus, nous on a fait ce qu'on avait à faire. Bon, si l'œuvre de Dieu c'est ça, c'est un petit peu triste. Ézéchiel revient sur le bord du torrent et il voit des arbres. Dieu a béni cette affaire. Il y a du fruit de chaque côté. Et c'est ce que nous voulons voir, du fruit, vraiment du résultat par la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai qu'il y a quatre étapes, parce que je crois que lorsque le Seigneur nous amène à une grande bénédiction, il le fait d'une manière progressive. Peut-être que nous ne supporterions pas, un grand changement, il faut faire les choses par étapes. Vous êtes d'accord que Dieu fasse les choses progressivement? Il vous connaît, le Seigneur, il sait comment vous avancez, et il le fera progressivement. Donc, Dieu amène le prophète à avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Et ce matin, je disais à l'Église, pour ma part, je suis convaincu que dans cette assemblée, quand même, je connais bien l'assemblée, puisque j'y suis là depuis 14 ans, je sais qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il n'y a peut-être pas de l'eau jusqu'au cou, mais il y a de l'eau au moins jusqu'aux chevilles. C'est-à-dire qu'on marche dans la grâce de Dieu. Et j'espère que vous êtes nombreux. Alors là, ça me ferait peine de savoir que beaucoup ne marchent pas dans la grâce de Dieu. Je parlais de ceux qui sont dans le désert, et il y en a hélas dans l'Église, des gens qui n'ont aucune communion avec Dieu, ils ont été sauvés, ils sont passés par la croix, et ils sont là, Jésus est loin, ils essaient, je ne sais pas, de concilier quelque chose. Bon. Mais je sais aussi que dans l'Église, il y a des gens qui marchent dans la grâce de Dieu. Elle est là. Ils se lèvent le matin, leur cœur est pour le Seigneur. Ils aiment lire la parole, ils croient en Jésus-Christ, toute la journée, leur marche, puisque les pieds sont l'image de la marche, ils marchent avec le Seigneur. Il y en a parmi nous des gens qui marchent avec le Seigneur? Oui? Vous aimez Jésus? Vous aimez commencer la journée en disant « Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon berger. Merci pour le petit déjeuner. Merci parce que tu vas me garder. Merci pour la roue, même si pendant les bouchons, j'aurai beaucoup de temps pour méditer ta parole. » Il y en a des bouchons à Toulouse, non? Bon, enfin, la marche dans la grâce de Dieu. Voilà. Mais des chrétiens se contentent du minimum. Pour moi, c'est le minimum. Le désert, c'est anormal. On n'est pas fait pour vivre dans le désert. On n'est pas des bédouins. On est des chrétiens. On doit vivre vraiment dans la grâce de Dieu. Beaucoup de chrétiens, je pense que d'une manière générale en France, même dans nos assemblées de Pentecôte, la majorité des chrétiens vivent avec le minimum. Ils vivent quelque chose. Il y a une grâce de Dieu, mais c'est 10 cm d'eau. Alors, il peut y avoir après ceux qui vont entrer dans une deuxième étape, de l'eau jusqu'aux genoux. C'est vraiment l'image de la personne qui déjà a une vie de communion avec Dieu. Les genoux sont l'image de la prière. Et il y a ceux qui, en plus de la grâce, font leur culte personnel. Ils se tiennent à genoux devant Dieu, peut-être pas physiquement, mais spirituellement, ils ont une vie de prière. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de vie de prière. Il y en a qui m'ont dit, moi la Bible, je l'ouvre quand je vais à l'église. Au moins, ils ont l'honnêteté de le dire. Bon, ça ne règle pas le problème, mais ils le disent. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je prie à l'église. Je viens à la réunion le mardi et je prie avec l'église. Et chez vous, ah non, non. » Vous voyez, c'est cette image-là. Ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles. Ils ne sont pas avancés dans cette vie de communion avec Dieu. Par contre, ça, s'il y a des frères ici et sœurs qui ont cette vie de prière, je vous encourage à prier pour que Dieu suscite la soif. Parce que si tous les chrétiens se mettaient à prier pour que dans la ville de Toulouse ou dans notre nation, les gens se mettent à avoir soif de Dieu, je crois que c'est une prière qui va plaire au Seigneur. Seigneur, suscite la soif. Suscite la soif parmi les chrétiens, parmi les païens bien sûr, ça, c'est sûr que c'est l'idéal, que des pécheurs se lèvent le matin et aient envie de faire la paix avec Dieu. Ça arrive. Que des gens se réveillent, ils ont envie d'une chose, c'est de connaître la grâce du Seigneur. Ça c'est beau. Est-ce que vous croyez que ça pourrait se produire ça? Mais ces arbres que Ézéchiel voit à la sortie de son petit parcours là, vous ne croyez pas que c'est la preuve que nous aurions beaucoup de sujets d'étonnement? Moi je le crois. Alors si vous avez de l'eau jusqu'aux genoux, ne vous contentez pas de ça. Bien sûr c'est mieux que le minimum. Mais priez, Seigneur, suscite la soif. Suscite la soif chez les serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est important que les pasteurs en aient soif de Dieu également? Ou est-ce qu'on est des fabricateurs de sermons? Est-ce que c'est ça que vous avez besoin? D'un fabricateur de sermons? Ou est-ce que vous avez besoin d'un homme de Dieu qui apporte la pensée de Jésus-Christ? Voilà, on n'est pas là pour faire des sermons. On est là pour amener la pensée du Seigneur. Est-ce que vous priez pour les pasteurs? Je répète, est-ce que vous priez pour les pasteurs? Est-ce que vous pensez que les cultes seraient différents? Je ne dis pas ça pour culpabiliser, je dis ça pour ouvrir un débat quelque part, qui est biblique. Est-ce que vous pensez que si les chrétiens, remplis du Saint-Esprit, le dimanche matin, se levaient et avaient un moment d'intercession, en suppliant Dieu, que les cultes soient baignés de sa présence, que les pasteurs soient inspirés, que de leur bouche sorte la parole de Dieu, est-ce que vous pensez que ça pourrait changer les choses? Si tous les chrétiens nés de nouveau, repentis, convertis, avaient un moment le dimanche matin de prière et d'intercession, est-ce que vous pensez franchement que ça ne changerait pas les choses? Que les meneurs de chant soient conduits également, car un chant peut convaincre quelqu'un de péché. Il y a un jeune qui a pris le baptême quelques années, il était venu pour la première fois à un mariage, le marié avait dit, moi je veux chanter avant la prédication, je crois, vous me reprenez, de la croix la grâce coule. A été convaincu de péché à un mariage parce que le marié avait dit, moi avant la prédication, je veux qu'on chante de la croix, la grâce coule. Voyez? Et c'est sûr qu'on avait prié et nous ne nous rendons pas compte. Voyez, le minimum c'est bien, mais le minimum on pense qu'à soi, c'est pour soi-même, on ne peut pas aller plus loin, on ne connaît pas autre chose. Mais dès qu'on commence à avancer dans les genoux, il y a déjà quelque chose de plus sérieux, de plus profond. On peut déjà presque nager dans de l'eau jusqu'aux genoux. On ne peut pas nager dans 10 cm d'eau. Vous avez déjà nagé dans 10 cm d'eau, vous risquez de racler les genoux, je vous le dis. Mais déjà, on peut un petit peu être porté dans 40 cm d'eau. C'est l'image quand même d'une vie. Mais ce n'est pas ça. Dieu veut beaucoup plus que la prière. Béni soit Dieu pour la prière. Béni soit Dieu pour la marche. Mais Dieu veut que nous soyons déjà forts, de l'eau jusqu'aux reins. Déjà une expérience qui va nous amener à être soulevés. Ce n'est pas la grande puissance, mais il y a quand même cette bénédiction. Certains chrétiens en sont là. Ils ne sont pas portés par le fleuve, mais ils sont quand même dans une grâce abondante. Jésus l'a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. La vie de Dieu, elle doit couler en abondance. C'est l'ennemi qui nous fait croire que non, les temps sont courts, le diable, la colère arrive, les ténèbres s'épaississent, le jour vient où on ne peut pas travailler, alors écoutez, autant baisser les bras, à quoi ça va servir? Dieu a dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, et que les fleuves d'eau vive, ils seront jusqu'à la fin pour tous ceux qui auront soif. Et nous voyons Ézéchiel qui est amené juste dans cette quatrième étape où il va nager. Et quand on nage, le corps ne travaille pas. Il est porté. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes porté par la puissance de Dieu. Et vous l'avez expérimenté, si vous avez déjà été vraiment rempli du Saint-Esprit, vous avez observé que les choses de Dieu se font facilement. Vous vous êtes même des fois surpris en train de parler de Jésus à quelqu'un sans faire des efforts. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vous est jamais arrivé? Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça le joug doux et léger. Mais c'est normal qu'il soit doux. Le Seigneur est à côté de nous. Mais prenez mon joug, c'est le sien. Le sien, c'est ça. C'est écouter, être attentif au commandement. Seigneur, tu me donnes un commandement? Tu veux que je sois rempli du Saint-Esprit? Mais c'est clair, c'est pour mon bien. C'est pour que mon bonheur soit là. Il n'y a rien de pire que d'être tiède, d'aimer Dieu, et après de regarder des saletés à la télévision, ou alors d'être grossier. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de plus terrible. Et c'est ce que le diable veut. Le diable, il s'en fiche qu'on serve Dieu. À partir du moment où on vit, où on aime le monde, ça, rien ne se fera quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Le diable, ça lui est égal. On peut venir à l'église tous les jours, on peut prier tant qu'on veut, on peut jeûner tant qu'on veut. Si tout en aimant ou en servant Dieu, on vit dans le péché, ça lui est égal. Parce que de toute façon, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec des hommes et des femmes qui cherchent la volonté de Dieu, qui se séparent du mal, qui cherchent à enlever tout ce qui fait obstacle à la prière. Oui ou non? C'est comme ça. C'est ça que le diable, il ne supporte pas. Lorsque les chrétiens sont emportés dans ce fleuve, et quand on est emporté dans ce fleuve, eh bien on est béni. On est béni. C'est Dieu qui le fait. La preuve, quand il revient au bord du fleuve, eh bien il y a les arbres. Il y a les fruits. Et nous ne soupçonnons pas tout ce qui se passerait si vraiment nous faisions en sorte que notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit entièrement au Seigneur. Mais déjà, commençons à prendre certaines victoires, ce que nous appelons petits péchés, ce que certains chrétiens appellent faiblesse. La jalousie, prenons un exemple, c'est une faiblesse ou un péché? Mais je peux vous dire que beaucoup de chrétiens acceptent énormément de péchés comme étant des faiblesses, parce que les faiblesses, on peut en avoir des faiblesses. Mais beaucoup de chrétiens vont accepter la colère, l'irritabilité, comme quelque chose faisant partie d'une faiblesse. Mais moi, je lis dans la Bible que ces choses-là sont des péchés, et que le Seigneur, il peut nous en délivrer. Vous croyez que Jésus délivre toujours? Alors la solution, elle est simple, je conclue avec ça, si quelqu'un a soif. Quand quelqu'un a soif, il boit. Avez-vous soif de Dieu? Ou est-ce que c'est théorique? C'est-à-dire, est-ce que vous aimeriez bien avoir la bénédiction? Il y a des gens, je disais ce matin, ils ne peuvent pas se passer de regarder la télé, par exemple. C'est une drogue pour eux. Je donnais le témoignage ce matin d'une sœur qui, quand elle partait chez sa fille, il fallait absolument qu'elle se fasse enregistrer quelque chose qui ressemble à du spirituel. Vous voyez, amour, gloire et beauté. Vous voyez, c'est presque spirituel ce truc. Vous voyez, mais je ne crois pas que ça l'est. Je n'ai jamais vu. J'ai vu peut-être une fois deux ou trois minutes. Ce n'est pas le truc qui m'accroche. Vous voyez, le titre, oui. Et quand elle partait, et un jour, en partant chez sa fille, elle prenait l'avion, elle a été convaincue de péché. Elle s'est dit, mais quand je m'en vais, je ne demande pas qu'on m'enregistre les prédications. Par contre, je me fais enregistrer des émissions stupides. J'ai soif de ces choses, alors que je devrais demander qu'on m'enregistre les prédications. Et cette femme, elle est âgée dans l'église. C'est une bénédiction. Elle a carrément changé. Elle était toujours inquiète. Elle était toujours apeurée. C'est une femme qui vraiment, elle est âgée, elle a 94 ans. Mais elle sert Dieu, et je peux vous dire qu'elle a fait de belles expériences. Pourquoi? Parce qu'elle a eu soif de Dieu. Quand on a soif, il ne faut pas que ça soit théorique. Ça vous est déjà arrivé la nuit, vous avez soif, mais vous n'avez pas envie de vous lever. Ça vous est jamais arrivé? Parce que ça va vous réveiller. Et si vous vous réveillez, vous ne rendormez pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je me lève pour aller boire. Si je bois, je vais mettre une heure à me rendormir. Ça vous est jamais arrivé, ce dilemme? Moi, ça m'est déjà arrivé. Eh bien, voyez, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne, c'est que Dieu ne le fera pas. Ne dites pas, Seigneur, attrape-moi par l'épaule et tire-moi dans ta présence, envoie un ange et qu'il me pousse dans ta présence. Vous pouvez prier, non. Qu'il vienne. Dieu ne le fera pas. Si Dieu vous dit, venez, c'est à vous de venir. Alors Seigneur, je vais venir. Je ne vais pas demander la bénédiction. Je ne vais pas prier pour celui-ci, pour celle-là. Je vais venir dans ta présence. Qu'il vienne à moi. Vous rappelez les premiers textes? Sa divine puissance, ses promesses à ceux qui connaissent Jésus. Et après, vous faites ce que Dieu vous demande. C'est pour ça que la vie du Saint-Esprit est une grande bénédiction, parce qu'on fait ce que Dieu nous demande. Alors, est-ce que vous êtes convaincu dans votre cœur que sur la terre, par rapport à votre service, vous faites ce que Dieu vous demande? Voilà. Par exemple, bon, moi je dois prêcher, je sais que je fais ce que Dieu me demande, heureusement. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que mon frère, ma sœur, tu peux dire oui, je fais ce que le Seigneur me demande. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège. Je m'attache à ce qu'il me demande. Ce n'est pas une corvée, c'est un bonheur. Et si ce n'est pas le cas, eh bien soyez honnête. Comme vous allez dire au Seigneur, Seigneur, écoute, j'ai pas soif. C'est vrai, je suis là cet après-midi, je lis des fois ma Bible, mais je le fais pour le faire. Je le fais parce que j'ai peur que si je ne le fais pas, ça ne va pas aller. On peut faire les choses par crainte. Oui ou non? On peut les faire par crainte. Et ce n'est pas bon. Il faut faire les choses de bon cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, le cocktail sera extraordinaire, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Je termine parce que j'ai lu ce témoignage il y a quelque temps dans un livre de ce pasteur qui avait fait une mission d'évangélisation, et il avait mis un frère à l'entrée de l'église. Il avait mis un frère à l'entrée de l'église et pour que les gens rentrent, voyez, les passants, venez, on a une mission, on a un pasteur qui prêche. Et cet homme était toujours triste, toujours malheureux, tout le temps, il faisait pitié à voir, quoi. Je ne sais pas pourquoi ils avaient demandé à ce frère, d'ailleurs, de faire entrer les gens. Bon. Et il y a un passant qui était là dans la rue, juste au moment où le pasteur qui prêchait arrivait. Et le gars, il dit, venez écouter l'évangile, ça va vous faire du bien. Vous voyez, avec tristesse. Et le gars, il a dit, écoutez, ce n'est pas la peine. J'ai assez de problèmes, je n'avais pas davantage. En voyant le chrétien tellement joyeux, vous voyez, ça ne lui a pas donné envie de rentrer. Mais c'est quand même révélateur que les gens regardent. Ils nous regardent, les gens. Et je crois que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, mais ça se fait tout seul. Parce qu'il y a des gens qui, dans le monde, il y a des gens qui sont capables de... Un commerçant, est-ce qu'il est capable de se contenir devant les clients qui sont pénibles pour essayer de leur vendre leurs affaires? Mais est-ce qu'on peut dire que le commerçant a la maîtrise de soi? Non, il se résigne. Non, il se résigne. Les païens peuvent se résigner. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont la maîtrise de soi. Mais lorsque ça vient du Saint-Esprit, c'est naturel. C'est pour ça que le joug est doux et le fardeau, il est léger. Et je crois, mes frères et sœurs, que c'est ce que nous devons dire. Mais Seigneur, je n'ai pas suffisamment soif de toi. Je le confesse, j'en ai honte, mais je sais que tu vas m'aider. Tu vas m'aider. Dieu a aidé Ézéchiel. Allez, Ézéchiel, on passe du sec à 10 cm. Hein, on passe des chevilles aux genoux. On passe de la prière à ce soutien. Et maintenant, on va passer de la grâce puissante à la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes intéressé par cela? Oui? Est-ce que vraiment vous êtes intéressé? Est-ce qu'on peut demander à Dieu qu'il suscite la soif? Vous êtes d'accord? On ferme les yeux pour terminer ce culte et on lui demande de nous faire grâce, de nous aider. Dieu va nous aider, vous le savez. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si on parle de ces choses, ce n'est pas pour culpabiliser, pour écraser. Non, c'est pour réaliser qu'on a un Dieu qui veut nous aider. Comme il a aidé Ézéchiel, il l'a pris par le bras, il vous prendra par la main et il vous avancera dans ce fleuve. Notre Père, notre Dieu, nous croyons vraiment que tu es le Dieu tout-puissant. L'expérience qu'a faite Ézéchiel, je crois que nous pouvons tous la faire. Nous laisser conduire de la terre sèche ou du minimum jusqu'à ta puissance. Seigneur, nous soupirons après ce baptême, nous l'avons chanté, ce que notre cœur réclame, c'est ce feu. Seigneur, tu vois la ville de Toulouse qui a besoin d'être visitée par ton esprit. Tu vois tout ce qui est fait et qui est stérile, qui est fait avec l'intelligence humaine, avec la force humaine, qui est fait avec nos finances. Seigneur, mais que ce soit toi, par ton esprit, vraiment, qui se déverse sur cette ville. Nous le demandons, Jésus, pour la gloire de ton nom. Suscite la soif. Tu vois, tu savais qui serait cet après-midi dans ce lieu. Tu vois tous ceux qui peut-être se sont éloignés de toi, tous ceux qui ont besoin d'une victoire, qui essaient par leur force, par leur lutte, et qui n'arrivent pas, qui font que retomber. Seigneur, montre-nous que la victoire qui triomphe du monde, c'est cette foi vivante lorsque nous sommes dans le fleuve et que nous en ressortons, nous aussi, nous voyons le fruit, comme Ézéchiel a pu voir ses arbres, nous voyons le fruit autour de nous, dans nos vies, pour glorifier ton nom. Merci Seigneur Jésus de nous avoir laissé ta parole. Donne-nous, au cours de la semaine qui vient, d'être attentifs à tes commandements. Que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Amen. Amen.